RMC, Ligue de BKT, le débrief.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2 BKT, le débrief, le podcast d'RMC dédié à ce magnifique championnat, qui est la Ligue 2. On embrasse et on remercie les joueurs qui ont débriefé ce championnat 2023-2024 à chaque journée avec nous. Elisha Ouassou, champion de France avec Auxerre, Romain Thomas, le Canet, Jordan Adéotil, Lavallois, le Bordelais Gaëtan Weisbeck, Tom Ducrot, le Bastier et Denis Sapia. Les vacances sont bien méritées. C'est pas encore les vacances pour Denis qui aura un barrage à disputer vendredi avec l'AS Saint-Etienne. On en reparle dans une seconde parce qu'on va revenir sur la 38e et dernière journée du championnat. On va analyser l'effet marquant. Bien sûr, cette montée directe du SCO d'Angers. Saint-Etienne qui va devoir passer par les barrages face au vainqueur de Rodez, Paris FC ce soir. On fait le débrief avec deux supporters, Joss Randall de l'AS Saint-Etienne. Salut Joss.
Salut. Bonjour à tous.
Et Valentin, notre supporter angevin. Salut Valentin.
Salut Benoît, bonjour à tous.
Et je précise qu'en deuxième partie de podcast, on aura la chance de s'entretenir avec le coach du RAF, Didier Santini, à quelques heures du barrage entre Rodez et Paris FC. C'est parti pour Ligue 2 BKT, le débrief. Les résultats complets donc de cette dernière journée de championnat, la victoire d'Auxerre contre Concarneau 4-1, 0-0 entre Angers et Dunkerque, défaite de Saint-Etienne à QRM 2-1, 1 partout entre Bastia et Paris FC, Rodez a battu Ajaccio 2-0, victoire 3-0 de Caen contre Valenciennes, Laval est allé gagner à Guingamp 1-0, victoire de Bordeaux 3-2 contre Pau, 3-1 pour Amiens à Grenoble et 1 partout entre Troyes et Annecy. Les conséquences, le classement définitif de cette saison, Auxerre champion 74 points, Angers monte également direct en Ligue 1 avec 68 points, 3e l'AS Saint-Etienne avec 65 points et puis donc les deux barragistes, Rodez 4e avec 60 points, le Paris FC 5e avec 59 points, Caen échoue à 1 point du barrage, Caen termine 6e avec 58 points et puis je rappelle les barragistes, enfin les relégués, excusez-moi, 3 QRM, Concarneau et Valenciennes. Ils sont là donc nos supporters avec des émotions diverses. Commençons par celui qui a eu la bonne nouvelle de vendredi, Valentin, supporter du SCO. Ça a été chaud, ça a été tendu, il n'y a pas eu de vainqueur entre Angers et Dunkerque, mais la montée est tout de même là, Valentin.
Oui, comme tu l'as dit Benoît, ça a été chaud, ça a été tendu. Je crois que c'est un des matchs que j'ai vécu au stade les plus crispants de la saison, parce qu'on était dépendant du résultat de Saint-Etienne, parce qu'au niveau du jeu proposé, ça a été très compliqué vendredi. Je ne sais pas si les joueurs avaient une petite appréhension, peut-être un petit peu peur. Beaucoup d'imprécisions au niveau des passes, beaucoup de frustration. On voyait souvent, notamment, c'était Imad Abdelli, ouais, très frustré parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mouvement sur le terrain.
J'allais te dire, lui a beaucoup manqué de gestes techniques. D'ailleurs, on l'a senti tendu lui,
ouais,
aussi. Hein,
donc, je pense que les joueurs étaient tendus, le stade était tendu. Je pense que tout le monde était tendu. Après, il y a eu la clameur après le premier but à QRM, parce que forcément, maintenant avec les téléphones, on sait très vite, ce qui se passe. Et c'est Pierre Capel qui l'a dit notamment, alors c'est pas ne pas apprécier, mais qui savait plus après comment faire. Est-ce qu'on arrête de jouer et on défend? Est-ce qu'on attaque absolument pour mettre un but? C'est très compliqué dans ces moments-là. On sait pas vraiment comment gérer ce genre de choses. Il y a une deuxième clameur sur le deuxième but, et sachant que, si je dis pas d'erreur, il y avait un léger décalage entre la reprise de notre match et celui de Saint-Etienne, parce que je crois que les supporters de Saint-Etienne avaient fait quelques craquages de fumigène. Donc nous, au moment où le match se termine et où l'envahissement de terrain commence, Saint-Etienne vient de marquer, si je dis pas d'erreur, sur penalty.
89e Sissoko, ouais.
Voilà, donc on aurait pu, avec de la malchance, créer le plus beau moment de la FFL, si je puis dire, avec un envahissement de terrain. Si Saint-Etienne avait mis deux buts, on aurait été comme des idiots sur le terrain. Heureusement pour nous, ça n'a pas été le cas. Et après, la fête a été magnifique vendredi soir.
Et toi, tu y étais, parce qu'il y a eu ce moment assez sympa. On a entendu le speaker du stade chez le diffuseur. On voulait surtout pas reproduire ce qui s'est passé au Havre l'année précédente, c'est-à-dire l'envahissement de terrain avant la fin du match. Hein. Tout le monde vous disait bien attendez, restez sage, calmez-vous.
Le speaker a dû le dire au moins 4 ou 5 fois parce que. Je crois que dès la 87e, 88e, il y en avait déjà qui étaient déjà passés par-dessus les barrières et qui étaient au bord déjà de la pelouse. Donc, oui, C'est sorti très vite. Moi, avec, avec mon ami Mathieu, avec qui j'étais au stade, nous, on a attendu la confirmation de la fin du match de Saint-Etienne pour ne pas être comme des idiots sur le terrain. Parce que je pense que là, la descente aurait pu être dure si on avait appris que Saint-Etienne avait gagné. Donc, on a préféré attendre la confirmation pour après aller sur le terrain. Ouais.
Et donc, la bonne nouvelle pour le SCO d'Angers, la mauvaise pour l'AS Saint-Etienne, Joss, le troisième match sans victoire et donc cette défaite à QRM qui était déjà relégué au début de cette journée, on l'a dit avec Valentin, mais ouverture du score à la 63e de Soumano, 2-0 en plus à la 81e, réaction à la toute fin avec le pénalty inscrit par Sissoko. Mais voilà, les Stéphanois sont passés à côté de ce rendez-vous et c'est bien dommage parce que c'est d'autant plus frustrant qu'avec une victoire, Saint-Té aurait pu terminer deuxième et aller décrocher cette montée directe, quoi.
Exactement. Voilà. D'abord, j'aurais commencé parce que à Saint-Etienne, vous savez tous qu'on est des gens fair-play.
Ouais.
Par féliciter mon acolyte d'Angers, parce que bon, on a les boules hein, ici, mais globalement, pour des gens qui ne sont ni supporters de Saint-Etienne ni supporters d'Angers, en regardant objectivement, je crois qu'ils méritent leur deuxième place.
Oui.
Sur la régularité de la saison et sur le jeu qu'ils ont proposé. Nous, on est juste contents de les avoir battus deux fois, quoi. Voilà.
mais c'est ce qui faisait la différence de but, hein. C'était le jeu de victoire.
Ouais, c'est vrai.
Exactement. Et après, je reviens sur le coup de l'envahissement de terrain à la fin. Alors, je vous cache pas que nous, on voyait la fin de notre match en double écran, on voyait l'envahissement de terrain. Mm. On a évidemment tous rêvé que dans ces scénarios. Mais vu ce qu'on avait produit dans le match, je nous voyais très très mal marquer deux buts dans les arrêts de jeu comme on avait fait contre Bordeaux. Voilà. Bon. Après, pour le reste...
Est-ce que tu y as cru ? Est-ce que tu étais fataliste au coup d'envoi ? Est-ce que tu avais quand même de l'espoir quand ça a démarré ? Tu étais dans quel état d'esprit, toi, Joss ?
Bah, moi, j'avais pris un coup dans la carlingue déjà dans les matchs contre Rodez à domicile où on avait déjà raté une marche. Et je voyais bien que l'équipe, elle y était plus beaucoup depuis 4-5 matchs avec des résultats... les victoires étaient des victoires heureuses. Contre Caen, si Mendy met le but qu'il doit mettre, il n'y a pas victoire. Contre Bordeaux, ça passe quand même entre le mur et l'affiche. On sentait bien que l'équipe, elle était fatiguée, déjà, physiquement. Et puis, mentalement, il semble qu'il n'y ait plus de ressort, qu'il n'y a pas assez de leader dans cette équipe pour arriver à assurer le sprint final jusqu'au bout. Donc, évidemment que j'y croyais, comme tout supporter, j'avais envie d'y croire parce qu'il y avait quand même des scénarios envisageables qui nous envoyaient en Ligue 1 directement. Mais j'ai vite vu dans le match que voilà quoi, on l'a pas attaqué comme on aurait dû. On aurait dû aller là-bas pour plier le 19e de Ligue 2 et on l'a joué comme les derniers matchs de manière poussive. Donc assez rapidement dans le match, je me suis mis à plus trop y croire quoi. Voilà.
Je le dis souvent, mais c'est fou l'effet absence Gauthier Larsonneur dans cette équipe. À chaque fois, ça se confirme et ouais. Ça se vérifie, quoi. C'est dingue, hein.
Alors, c'est une absence d'un point de vue footballistique, technique, qui est très importante parce que c'est le meilleur gardien de Ligue 2. Il a eu le titre.
Ouais.
Et que son backup, eh ben, il y a un écart de niveau, hein. Sans faire offense à Étienne Green, il a un certain nombre de lacunes.
Et puis, écart de confiance, c'est ça aussi.
Oui, voilà. Ouais, c'est surtout l'impact que Larsonneur a sur l'équipe.
Ouais, ouais.
Qu'a pu avoir à un moment donné Masson quand il est arrivé par son envie, son implication, son langage corporel et qu'il n'a plus depuis quelques matchs parce que simplement il est cuit, quoi. Il est cramé. Bon, bah ça, c'est des joueurs, quand tu les as pas, ça fait vite un gros trou. Et le problème de cet effectif, c'est qu'en Ligue 2, il en faut 4 ou 5 des leaders comme ça. Nous, on en a qu'un, en fait. Donc, le jour où tu l'as plus, l'impact mental sur l'équipe est très, très fort.
Dans un instant, on va se projeter justement sur les barrages. Déjà, le match de soir et puis le rendez-vous qui vous attend vendredi à Saint-Etienne, quoi qu'il arrive, face au vainqueur de Rodez Paris FC. Juste, Valentin, un mot avec toi, parce que nous, on a fait vivre comme ça cette soirée de Ligue 2 sur RMC. On nous racontait que dans la ville, il n'y avait pas d'effervescence particulière. C'est-à-dire qu'à Angers, ce n'était pas la folie dans l'idée de remonter en Ligue 1. C'était vraiment cantonné à ceux qui sont fans de foot et fans du SCO. Est-ce que tu le confirmes ? Est-ce que tu l'as vécu comme ça, toi, vendredi ?
Je le confirme puisque vendredi était seulement le deuxième match de la saison, un titre d'exemple, qui était à guichet fermé.
Ouais.
Parce que tout le reste de la saison, l'ancienne tribune présidentielle a été fermée toute la saison, à part contre Saint-Etienne et contre Laval, si je ne dis pas d'erreur. Pour plusieurs raisons. Déjà, les gens en début d'année ne sont pas venus. Il y a notamment, je ne sais plus si c'est le Club de la Butte, il me semble, qui a fait ce petit affichage en plein match, en remerciant les 5000 supporters qui étaient présents dès le mois d'août. Et c'est déjà, c'est une petite pique, on voyait, à ceux qui étaient là, on va dire, vendredi.
Qui viennent juste pour voir le champagne de la montée, quoi.
Ouais. Un petit peu, ouais. Oui. Après, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a notre saison catastrophique l'année dernière. qui fait que bah, les gens se sont peut-être un petit peu désintéressés du SCO. Il y a également les relations que les supporters et les gens de la ville d'Angers ont avec, alors, je ne sais pas si on peut l'appeler le propriétaire, le président, oui. Enfin bref, parce qu'on ne sait pas trop quel titre il a, Monsieur Chaban. Mmh. Je ne vais même pas parler de ces deux déclarations qu'il a sorties, qui pour moi sont complètement lunaires, que ce soit sur Beansport ou à votre micro, je ne sais pas si c'était vendredi ou samedi matin.
De moments un peu gênants, oui, t'as raison.
C'est très gênant. Mmh. Voilà, quand on voit le passif du monsieur, c'est peut-être pas le bon moment de parler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y avait rien de prévu au niveau de la mairie d'Angers, parce que je pense que la ville d'Angers n'a pas vraiment envie d'être associée avec ce monsieur. Et vendredi soir, quand les joueurs ont pris le bus impérial direction la place du ralliement, à un moment donné, donc les joueurs ont pris le micro. Voilà, bon, Loïs Denis a eu son petit chambrage de vie de Saint-Etienne. On apprécie, on n'apprécie pas. Après, je pense que c'est dans les rivalités sportives. Après, je pense que Dionis a voulu, entre guillemets, se venger, je dirais, de tout ce qu'il a pris sur ses années stéphanoises, notamment par les supporters, bah, les réseaux sociaux. Hein, on sait très vite que ça peut aller très vite. Et M. Chaban a voulu prendre le micro. Il s'est tellement fait huer qu'il a compris que c'était pas le moment de parler. Donc, ça veut tout dire.
Voilà.
Ça veut dire que les gens ne veulent pas... Voilà, même encore pendant les matchs, hein, il y a des chants lancés par le COP, Chaban en prison.
C'est
donc,
tout le paradoxe de cette saison, c'est que sportivement, elle a été très bonne. Elle a mis un peu de temps à démarrer, quoique au bout de 2-3 journées, c'était réglé. Mais les résultats sportifs...
Je suis pas d'accord.
Non, tu trouves pas ?
Bah non, parce qu'au bout de 2-3 journées, on avait pas gagné un match encore. On perd à la
balle. C'est ce que je te dis. Tu vois, ça a démarré doucement, puis après, il y a quand même un côté linéaire dans la saison du SCO.
Ouais. Ça a commencé à la 4e journée à Dunkerque, voilà. Où on gagne 1-0 sur penalty.
Mmh. Et après, en revanche, tu as eu une longue série qui s'est bien passée.
Notre série de victoires à domicile, arrêtée par Saint-Etienne.
Ouais.
Déjà, c'est la victoire aussi d'un staff et d'une personne que je veux vraiment remercier. C'est Alexandre Dujeu.
Ouais.
Qui est arrivé en tant qu'adjoint de Gérald Baticle, qui, quand Gérald Baticle a été limogé, n'est même pas passé numéro 1 parce qu'on a mis Abdel Bouazama qui est venu faire un petit intérim vite fait. Et c'est Alexandre Dujeu qui a repris la suite l'année dernière. Et Dieu sait s'il fallait vouloir du courage pour prendre l'équipe parce qu'il a pris une équipe qui était déjà condamnée. Il est resté.
Ouais.
Il a vécu une année très difficile. Hein, la perte de sa femme le 24 décembre, je n'ose imaginer. Dans quel état il était, le courage qu'il a eu de vouloir rester. Donc voilà, juste un mot, c'est merci. J'espère que ça peut faire un allant à la Stéphane Moulin. J'aimerais bien, parce que j'espère qu'il va rester.
Il était au stade d'ailleurs, Stéphane Moulin. Ouais.
Oui, bah Stéphane Moulin était au stade quasiment toute l'année. Mmh. Il était quasiment au stade toute l'année. Je l'ai croisé à la sortie du stade il y a 15 jours contre Pau. Par hasard, moi je repartais parce que je travaillais le lendemain matin à 7h sur Poitiers, parce que moi j'habite Poitiers. Donc le match finit à 22h30, 22h45, donc je pars tout de suite après et je l'ai croisé à la sortie du stade.
Ok.
Donc voilà, juste, après voir ce qu'on va faire au niveau de l'effectif.
C'est ce que j'allais te dire, est-ce que t'es dans quel état d'esprit si tu te projettes un peu? T'es inquiet pour ce qui va arriver? Tu savoures déjà? T'es pas encore dans ces dates-là? T'en es où?
Alors on a savouré vendredi, clairement. Maintenant on va voir au niveau de l'effectif, puisque l'effectif qu'on a eu cette saison, c'est l'effectif qui a gagné 4 matchs l'année dernière.
Ouais.
Voilà. Ou à quelque chose près, hein, à part quelques joueurs qui étaient partis, et cette année on a eu quelques renforts. L'arrivée notamment de Florent Hanin, il y a eu Le Fort également, et Joseph Lopi, même s'il a été blessé quasiment toute la deuxième partie de saison. Et Esteban Lepaul, c'est les seuls joueurs nouveaux qu'on a eu cette année par rapport à l'année dernière. Va falloir recruter, voir ce qu'on peut recruter, mettre de l'argent, j'en suis pas sûr. Est-ce que ce qu'on avait fait lors de la montée en 2015, c'est-à-dire faire des coups avec des joueurs de Ligue 2, ça avait marché en 2015, est-ce que ça remarchera cette année? Je sais pas, il y a des rumeurs notamment sur quelques joueurs, notamment le joueur de Rodez, Rajo, notamment, qui est une des rumeurs un petit peu persistantes.
Ouais, tu en as parlé à Saint-Etienne, notamment, c'est vrai.
Voilà. Ouais. D'ailleurs, merci à lui, on va pas se mentir.
C'est ça.
Y a un joueur, moi, que j'aimerais beaucoup voir à Angers, parce que je l'ai adoré cette saison, c'est le petit Kebal du Paris FC.
Même qui est blessé, d'ailleurs, le pauvre. Ouais, 3 mois.
Ouais, donc ça va être un peu dur pour lui, j'imagine.
Ouais.
Après, à voir ce qu'on pourra faire. Il y a notamment un Boussamina, je crois, de Pau également, qui est dans les rumeurs.
Bassouamina, ouais.
Voilà. Un joueur que j'aimerais beaucoup, moi, c'est le joueur qui est prêté par Caen à Pau également, c'est Outondji.
Ouais.
Qui a fait une bonne saison.
Très bonne saison à Rodez. Il joue à Rodez, il jouera ce soir.
Ouais. Voilà, c'est ça. Bon. À voir après ce qu'on peut.
Ça fait quelques pistes, quoi. Ouais.
Ça fait quelques pistes, mais de toute façon, oui, il faudra se renforcer très clairement. Alors, on ne pourra pas se maintenir avec le même effectif.
Là, on parle de moyen terme. Parlons du court terme avec toi, Joss. Donc, l'avenir de l'AS Saint-Etienne. Déjà, est-ce qu'on y croit encore ou est-ce qu'on est, on est fataliste avant le début des barrages, Joss?
la voix du supporter en moi va te dire qu'on y croit encore parce que. Comme disait, j'aime bien citer les grands auteurs, comme disait Sylvester Stallone, tant que la cloche a pas sonné. Maintenant,
sur le papier, c'est pas infaisable, hein, sur le papier. Hein,
non.
Tu gagnes chez toi face au 4e, 5e, et puis après, tu joues Metz en aller-retour. Donc,
oui. Oui. Je dis pas que c'est impossible, et je serai d'ailleurs au stade vendredi, évidemment, et on va attaquer le match en y croyant. Maintenant. Bon, je pareil, quand je me réfère à la dynamique du moment, Rodez, on les a pas battus et on les bat quasiment jamais. PFC à domicile, c'est une équipe qu'on bat pas. Et dans la forme du moment, avec les incertitudes autour de Gauthier Larsonneur, on ne sait pas s'il jouera, les grosses incertitudes autour d'Irvine Cardona, qui probablement ne va pas jouer.
Ça fait deux coups durs.
Plus la forme du moment, ça fait quand même beaucoup d'éléments contraires. Donc voilà. Après, la victoire n'en serait que plus belle, évidemment. Mais donc on va s'accrocher jusqu'au bout. De toute façon, il reste dans le maximum, dans le pire des cas, trois matchs. Donc on n'est plus très loin du bout. Mais on n'est pas euphorique, quoi. Voilà. On n'est pas hyper optimiste. Voilà.
Je rappelle le calendrier. Donc ce soir, Rodez Paris FC. Vendredi, Saint-Etienne face au vainqueur de ce match. Et ensuite, ce sera la confrontation directe avec le FC Metz dès la semaine prochaine. Donc c'est vrai que les matchs vont s'enchaîner assez vite. Ouais, le jeudi et puis ensuite le dimanche, hein, je crois.
Le dimanche à 17h. Ouais.
Voilà, dimanche à 17h.
Donc voilà, dans une semaine, en gros, une semaine et demie, on sera fixé. Voilà. Et nous, on a hâte d'être fixé parce que l'enjeu est important, et puis parce qu'il y a cette grosse actualité au club à l'heure actuelle qui forcément est un peu qui n'avancera pas plus que ça, je pense, tant que le sort sportif ne sera pas connu, c'est la possible vente du club.
Tu considères ça comme une bonne nouvelle, toi? Ouais, ça y est, un soulagement?
Ah oui, clairement. Ouais. Ouais, clairement, pour plein de raisons. D'abord parce que l'équipe en place, on sent tous qu'elle est arrivée au bout de ce qu'elle sait faire, que de toute façon, économiquement, elle est au bout de ce qu'elle sait faire. Donc ça passait forcément par un nouveau propriétaire. Et aussi parce que celui qu'on nous présente depuis quelques temps, je trouve que c'est un profil qui est quand même intéressant par rapport à tout ce qu'on a pu voir comme rachat dans les autres clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 ces dernières années. Donc on est tous plutôt, alors on est évidemment à l'écoute, hein, c'est toujours pareil, hein, pour l'instant il n'y a aucun projet qui a été mis sur la table, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, mais en tout cas, la nature du potentiel investisseur et le fait qu'il se soit entouré déjà de gens qui sont des professionnels du foot, c'est plutôt rassurant.
C'est sûr. Et on espère que ça ira bien pour l'AS Saint-Etienne. On vous l'a dit, les gars, l'événement, c'est ce soir. Ce match de barrage historique pour Rodez, mais également importantissime pour le Paris FC. Ça se joue au stade Paul Lignon. Ça sera à suivre d'ailleurs sur RMC dès ce soir, 20h30, le coup d'envoi de Rodez Paris FC. On a la chance d'être en direct justement avec l'entraîneur du RAF, Didier Santini, qui va nous accorder quelques minutes à quelques heures du coup d'envoi. Bonjour coach.
Bonjour.
Tout d'abord, félicitations parce que vous avez bien géré le finish, ce match crucial chez vous à Paul Lignon face à la C Ajaccio, cette victoire 2-0. Racontez-nous les émotions parce qu'en plus, vous avez écourté le suspense, vous avez marqué deux buts dans les six premières minutes.
Oui, c'était... On a bien débuté le match, on a vraiment... Ouais, on est parti fort en marquant deux buts. A fait aussi le fait qu'après on a commencé à douter, à moins jouer, à moins se projeter vers l'avant, donc un peu en ronronner, mais bon, le plus dur était fait et après il fallait vraiment rester sérieux et pas perdre de ballon bêtement.
On sent une euphorie globale à Rodez. Est-ce que vous, pragmatiquement, vous avez déjà la satisfaction de recevoir ce match de barrage? Ça, c'est quand même un avantage indéniable.
Oui, c'est toujours mieux de recevoir. Je sais que le club travaille depuis mercredi, jeudi dernier, même en sachant qu'on pouvait aussi, en perdant, terminer sixième, travailler sur le fait d'aller jouer à Paris, d'aller jouer peut-être à Caen, de recevoir. Donc c'était un gros boulot, parce que d'habitude, c'est tout organisé en 3-4 jours, quoi. Donc après, oui, quand à la fin on apprend que Paris a fait match nul, ben voilà, c'est une satisfaction. Maintenant, la plus grosse satisfaction, voilà, c'est d'avoir fait un championnat, un beau championnat, d'avoir mis les couleurs de Ruthénoise et de la ville de Rodez et du RAF, et de dire voilà, qu'on est un bon club de foot et qu'on est là, quoi.
C'est là que votre mission est difficile, Didier, parce qu'il y a l'euphorie forcément de ce moment qui est extraordinaire. Rodez, 4e de Ligue 2, 60 points décrochés. Mais il faut tout de suite se projeter vers la suite pour ne pas avoir de regrets. Ce match de barrage sur une seule rencontre face au Paris FC. Est-ce que les joueurs étaient déjà dans ce mood-là, ou est-ce qu'il a fallu forcer le trait, justement, leur dire « c'est pas le moment de profiter, il y a d'autres échéances qui nous attendent ».
Bon, il faut toujours dire les choses, anticiper les choses. Après, je pense qu'ils étaient assez intelligents, mais moi, comme mon président, je suis assez dans l'anticipation. Donc, quand j'ai dit quand même, je préfère dire, on leur a dit que c'était une saison extraordinaire qui s'achevait, que c'était fantastique ce qu'on avait fait, que c'était génial, qu'il y avait eu plein d'émotions, plein de matchs extraordinaires avec notre public, une connivence extraordinaire. Et puis maintenant, les mecs, c'est de vous dire que dans 3 jours, vous avez un autre match et que ça continue. Et donc, de ne pas faire, de pas être stupide, de rester très, très professionnel et de continuer à rêver.
Le match est ce soir, 20h30, donc ce match entre Rodez et le Paris FC. Vous vous considérez comment comme favori? Vous l'abordez dans la peau d'un outsider compte tenu justement du passif de Rodez. C'est quoi l'état d'esprit?
Non, déjà, je ne suis jamais outsider, je ne suis jamais favori, je m'occupe de mon équipe. Maintenant, je sais que c'est du 50-50 parce que c'est une très belle équipe. C'est l'équipe qui nous a le plus embêtés, je pense, même si Auxerre était vraiment au-dessus, mais il nous a vraiment embêtés, que ça soit à l'aller chez eux, où on fait une super deuxième mi-temps, mais on fait une entame catastrophique. Et puis chez nous, ça a été compliqué, c'était un beau match, il y a de très bons joueurs, c'est un top club, qui c'est vrai qu'il voudrait mettre un deuxième grand, dans la capitale, un deuxième club. Mais pour moi, c'est 50-50.
On rappelle, d'ailleurs, oui, vous aviez perdu à Charletti 2-0, mais vous avez gagné chez vous il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, à la fin du mois d'avril, 1-0. Donc, vous savez ce que c'est que de battre le Paris FC à domicile. Si vous avez un message à faire passer aux supporters ruthénois, parce qu'on imagine que l'ambiance va être dingue, vous aimeriez leur dire quoi, là, justement, à quelques heures du match?
Comme mes joueurs, de rester eux-mêmes, de rester les gens qu'ils ont été, les supporters, les enfants, les parents, les adultes, tout comme ce qu'ils ont fait toute la saison. Ils ont été fantastiques, j'ai rien à leur apprendre. Ils ont été tellement extraordinaires depuis un an et même avant, que c'est un public qui est merveilleux. Je pense que beaucoup de clubs voudraient avoir un public comme ça, c'est-à-dire que même quand tu es dans la difficulté, même quand tu es dans le doute, même quand tu es dans le dur, ils t'encouragent, ils ne te sifflent pas. Je me souviens de certains matchs, il n'y a pas longtemps, contre Annecy chez nous. Et donc il est toujours en train de pousser ton joueur, et puis dès que le match finit, il switch très vite en disant hey, vous allez gagner le prochain match, vous allez à Saint-Etienne. Donc mais c'est ça, voilà, c'est ça un supporter. C'est siffler ses joueurs, ça sert strictement à rien, ça les rendra pas meilleurs. Et quand ils savent qu'ils peuvent te pousser jusqu'au bout, ils peuvent t'aider jusqu'au bout, ils te donnent une force extraordinaire. Alors on n'est pas 40 000 comme à Saint-Etienne, mais ce stade, il est petit, mais il met une ambiance c'est une ambiance de folie, quoi. C'est génial.
C'est toujours dur d'aller prendre des points à Rodez. C'était le cas l'an dernier, c'était encore plus le cas cette saison. Didier, dernière question. Est-ce que dans un coin de votre tête, il y a déjà la Ligue 1, ou est-ce que vraiment on se projette au match de mardi? Après, si ça marche bien, on se projettera sur le match de vendredi à Geoffroy Guichard. Est-ce qu'on a quand même dans la tête, vous m'avez dit, j'anticipe pas mal, peut-être cette double confrontation face à Metz, et pourquoi pas le rêve immense d'accéder à l'élite?
Non, j'anticipe dans les 24 heures.
Ok.
Je vais passer au match, j'anticipe. Non, j'ai toujours fait ça. C'est ce que je leur dis depuis le début, de match après match, point après point, comme au tennis, comme dans le golf, comme dans beaucoup de sports individuels. Si c'est pour se projeter comme au tennis, au dernier jeu, je vais gagner, je passe au suivant et tu perds au 5e set. Non, c'est point après point. Donc là, c'est vraiment que ce match-là. Et la Ligue 1, le seul rêve, c'est que c'est la première fois que le public ruthénois, que le club de Rodez entend ce bruit de Ligue 1.
C'est vrai.
Parce qu'il y a une possibilité, mais c'est un rêve qui est très, très, très loin. Mais pas si loin que ça non plus. Mais par contre, c'est match après match, parce que sinon, ce sera pour toutes les équipes une déconvenue. C'est compliqué, c'est difficile. On vit tous les 3 jours. Il y a une grosse saison qui vient de se finir. Donc, il faut être mentalement prêt à aller au combat. Ils sont prêts à aller au combat, mais, Mais je sais qu'on va rencontrer que des top équipes, donc ça va être un beau spectacle et que le meilleur gagne, quoi.
Bon, et ben je vous souhaite bon courage, un très bon match ce soir, 20h30, Rodez-Paris FC, match de barrage, Rodez le 4e qui reçoit le 5e. Le vainqueur de cette rencontre ira défier Saint-Etienne à Geoffroy Guichard vendredi. Merci Didier, bon match.
Merci beaucoup à vous, au revoir, ciao, ciao.
Et on remercie Didier Santini à qui on souhaite un bon match ce soir. Donc Rodez Paris FC, je vous rappelle le rendez-vous 20h30 sur RMC pour ce barrage de Ligue 2. Un grand merci à Valentin. Valentin, profite de ton été. Tu verras la Ligue 1 la saison prochaine. Bravo Valentin.
Eh bien oui, on va revoir la Ligue 1 l'année prochaine. On va changer malheureusement au niveau des horaires de match. Moi, ouais. Les horaires de 19h avec mon travail m'arrangeait. L'année prochaine, bon, visiblement, les horaires vont changer du multiplex. Donc 17h.
Ouais, tu vas souvent jouer à 17h le dimanche si les horaires restent comme ça, à mon avis.
Ah bah, à moins qu'on fasse une saison historique et qu'on se retrouve le dimanche à 21h, mais j'y crois pas des masses. C'est donc sûr. J'y crois pas trop. Non, mais 17h, on trouvera une solution quand même pour continuer à aller au stade. Hein.
Et il y aura de belles affiches, et ça, il faut vraiment en profiter. Bon courage à Jos Randall. Jos, allez, on y croit pour vendredi. Saint-Etienne a encore son destin en main. Il faut s'en sortir vendredi et puis ensuite, en cas de victoire, aller défier le FC Metz sur une confrontation aller-retour. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi. Et Ligue 2, BKT, le débrief revient justement la semaine prochaine. On sera juste avant le barrage Ligue 1, Ligue 2. Bonne semaine à tous. Ciao. Merci.